Chapitre 121 Andante de la Révolution de 1830. Pendant que M. Jacqual donnait à Salvator ses paternels avertissements, les bourgeois de Paris se promenaient de la façon la plus inoffensive, les uns avec leurs femmes, les autres avec leurs enfants, les autres enfin tout seuls, comme il est dit dans la noble chanson de M. Malbrouck. Nul ne songeait à mal, sans dire pour cela qu'aucun songeât à bien. L'idée qu'il pût y avoir ce jour-là quelque chose, quoique ce fût par un dimanche un peu frais, il est vrai, mais plein de rayons, n'était pas entrée dans une seule de ces bonnes têtes. Il fuyait la maison et demandait du jour et du soleil, fût-ce du jour ou du soleil de décembre. C'était le souhait naturel des gens qui ont de l'ombre toute la semaine. Tout à coup, sur les boulevards, sur les quais, aux Champs-Élysées, cette nouvelle retentit, le gouvernement a été vaincu. Or, qui était le vainqueur? C'était cette foule même. La foule, enchantée de sa victoire, commença à honnir le vaincu. Tout bas, d'abord. On médit du ministère, on gouailla, que l'on nous passe le mot, il est essentiellement gaulois, on gouailla les jésuites, robe courte ou robe longue, on plaignit le roi, on se livra à toutes sortes de récriminations. « C'est la faute de monsieur de Villèle, disait l'un. « C'est la faute de monsieur de Perronnet, disait l'autre. « C'est la faute de monsieur de Corbière, disait un troisième. « De monsieur de Clermont-Tonnerre, disait un quatrième. « De monsieur de Damas, disait un cinquième. « De la congrégation, disait un sixième. « Vous vous trompez tous, dit un passant. « C'est la faute de la monarchie. » Cette dernière voix remplit tout simplement la foule de stupeur. Où allait-on, en effet, avec cette idée jetée dans l'espace? C'est la faute de la monarchie. On n'en savait rien. Voilà justement pourquoi l'on s'effrayait. Les myopes, une fois les verres de leurs lunettes cassées, craignent toujours de tomber dans un précipice. Or, les bourgeois dont nous parlons, la race en est peut-être perdue aujourd'hui, les bourgeois dont nous parlons étaient myopes. Ces mots « c'est la faute de la monarchie » venaient de casser leurs lunettes. Un homme souriait à l'écart, c'était Salvator. Peut-être ces mots terribles étaient-ce lui qui les avait prononcés. En effet, aussitôt M. Jacqual parti, il avait endossé un manteau et était allé flâner. Le mot est cette fois plus français que gaulois, il était allé flâner du côté de la porte Saint-Denis. La veille, en voyant l'immense majorité qu'obtenait l'opposition à Paris, on avait convoqué à la hâte les différentes loges maçonniques. Et si précipitée que fût cette convocation, on eût dit qu'elle était prévue, commandée à l'avance, attendue impatiemment. L'affluence fut considérable. Quelques-uns dirent « Ah, l'heure est venue d'agir, agissons !»« Nous sommes prêts !» répondirent beaucoup parmi les autres. On parla de l'opportunité de la révolution. Salvator secoua tristement la tête. « Bon, dirent les plus ardents, la majorité à Paris n'est-ce pas la majorité en France? Paris n'est-ce pas le cerveau qui pense, qui délibère, qui agit? Eh bien, l'occasion s'offre que Paris la saisisse et la province suivra Paris. » Sans doute, c'est une occasion, dit mélancoliquement Salvator, mais croyez-moi, ami, elle est mauvaise. Je flaire vaguement je ne sais quel piège où l'on veut nous attirer et où nous périrons. Je crois donc de mon devoir de vous prévenir. Vous êtes de bons et braves bûcherons, mais l'arbre que vous voulez abattre n'est pas encore mûr pour la cogner. Vous confondez en ce moment le ministère avec le roi, comme plus tard peut-être on confondra le roi avec la monarchie. Vous vous figurez qu'en abattant l'un, vous détruirez l'autre. Erreur, mes amis, erreur profonde. Les révolutions sociales ne sont point des accidents, croyez-le bien. Elles s'accomplissent avec la même précision mathématique que les révolutions du globe. La mer ne surmonte ses rivages que quand Dieu lui dit « Nivelle les montagnes et comble les vallées ». Eh bien, c'est moi qui vous le dis, et vous pouvez d'autant mieux m'en croire que je vous le dis avec grand regret. L'heure n'est pas venue de niveler la monarchie. Attendez, espérez, mais abstenez-vous de participer, de loin ou de près, à ce qui va se passer d'ici à quelques jours. Vous serez, en agissant autrement que je ne vous le conseille, non seulement victime, mais complice des actes du gouvernement. Que veulent-ils faire? Je n'en sais rien, mais je vous en supplie, quoi qu'il arrive, ne donnez pas, en vous y mêlant, du prétexte au malheur. » Ces mots furent dits par Salvatore avec une telle tristesse que chacun baissa la tête et se tut. Et voilà pourquoi Salvatore n'avait été nullement étonné de ce que M. Jacqual lui avait dit le matin même, puisque le conseil que lui donnait M. Jacqual, il l'avait déjà donné la veille à ses compagnons. Et voilà pourquoi Salvatore souriait à l'écart en entendant honnir le ministère et plaindre le roi. Cependant, la nuit était venue et l'on commençait à allumer les réverbères. Et tout à coup, il se produisit dans la foule un mouvement extraordinaire, ce mouvement que ne produisent que les marées et les foules. Tout ce qui était en marche s'agita, frémit, ondula. La cause de cette ondulation était bien simple, nous la connaissons. On venait d'apprendre par les journaux du soir le résultat des élections dans les provinces. Certaines nouvelles, au reste, arrivent aux masses avec une rapidité fulminante. La foule ondula donc. Les maisons aussi eurent leurs ondulations comme la foule. À la voix d'un gamin qui cria « Des lampions !», une fenêtre s'illumina, puis une seconde, puis une troisième. C'est un très beau spectacle qu'une ville illuminée, Paris surtout. Cela lui donne je ne sais quoi de semblable aux rêves qu'ont fait des cités chinoises pendant la fameuse fête des lanternes. Mais si pittoresque que soit une scène de ce genre, plusieurs personnes s'en effraient. Ce fut ce qui arriva à la foule des bourgeois qui passa ce soir-là rue Saint-Denis, rue Saint-Martin, et dans les petites rues adjacentes particulièrement. Car c'est une chose à remarquer que plus les rues sont petites, plus les illuminations sont grandes dans les jours de réjouissance publique. Et le 18 novembre de l'an de grâce 1827 était un de ces jours-là. Bien qu'on ne fût pas complètement renseigné sur le résultat définitif des élections des départements, on en savait, comme nous l'avons déjà dit, assez pour se réjouir, et la preuve, c'est que l'on se réjouissait. On illuminait donc, et les rues Saint-Denis et Saint-Martin, entre autres, semblaient de rivières phosphorescentes. À cela près, la soirée fut calme. Sans doute, le cœur des libéraux était très agité au fond, mais grâce aux recommandations de Salvatore, tout semblait calme à la surface. Cependant, il n'y a pas de bonne fête sans lendemain. C'est un proverbe qui le dit, sans quoi je ne me permettrai pas de le dire. M. Jacqual avait été désappointé. Le calme avait été si grand qu'il n'y avait pas eu moyen de le troubler. Le lendemain, c'est-à-dire le 19, les journaux rendirent compte des illuminations de la veille et annoncèrent que l'on recommencerait le soir, mais que cette fois, selon toute probabilité, l'illumination croîtrait comme le triomphe, c'est-à-dire serait générale. De leur côté, les journaux du ministère, forcés de constater eux-mêmes leur défaite, le firent en termes amers. Ils parlèrent du sombre résultat et de la façon dont avait été accueillie dans la capitale cette désastreuse nouvelle. « Ah, le parti de la multitude triomphe, disait-il, malheur au pays, on ne tardera pas à voir à l'œuvre le parti de la révolution !» Mais Paris ne parut pas se ressentir de la tristesse du ministère. Il alla à ses affaires comme d'habitude, et il fut tranquille, sinon joyeux, pendant toute la journée. Il en fut autrement dans la soirée. Le soir, ainsi que les journaux libéraux l'avaient annoncé, Paris jeta de côté ses vêtements de travail et vêtit ses habits de fête. La rue Saint-Martin, la rue Saint-Denis et les rues environnantes s'illuminèrent comme sous la baguette d'une fée. Il y eut, à la vue de cette rivière de lampions, un éclat de joie qui dut retentir au plus profond du cœur des ministres, pareil à un écho funèbre. Des milliers de gens se promenaient, s'accostaient, se parlaient, sans se connaître, ou bien on se serrait la main et l'on se comprenait sans se parler. la joie s'exhalait de toutes les poitrines avec la respiration. On humait les premières brises d'une liberté plus étendue, surtout plus nationale, et les poumons oppressés se dilataient. Rien à reprendre à la foule jusque-là. C'était une bonne et honnête foule, jouissant de sa victoire, mais sans dessein prémédité d'en abuser. Quelques-uns poussaient bien des cris anti-ministériels, mais le nombre en fut très restreint. La protestation était plus grande par le silence que par le bruit. Le calme était plus imposant que la tempête. Tout à coup, un homme au milieu de la foule fit entendre ce cri « Achetez des fusées et des pétards, messieurs, fêtons les élections !» On en acheta. On les regarda d'abord machinalement, craintivement peut-être, sans songer à les allumer. Et puis un gamin s'approcha d'un bourgeois et, en manière d'espièglerie, glissa un morceau d'amadou tout allumé dans la poche où le bourgeois venait de glisser, lui, un paquet de pétards. Le paquet de pétards prit feu, le bourgeois éclata. Oh, ce fut comme un signal. À partir de ce moment, les pétards retentirent de tous côtés. 1000 fusées, comme des étoiles filantes, serpentèrent dans l'espace. La plus grande partie des bourgeois songea à se retirer, mais ce n'était point chose facile au milieu de cette foule compacte. D'ailleurs, en quelques instants, les choses changèrent de face. Des enfants, des jeunes gens, des hommes apparurent. Tout cela était vêtu d'habits déchirés, comme pour inspirer l'intérêt. Tout cela exhibait dans ces rues éclairées à giorno cette misère qui d'habitude se cache au plus profond des ténèbres. Troupes étranges, fantastiques, pareilles, lorsqu'on la regardait bien, par la silhouette, sinon par le nombre, à ces ombres que nous avons vues errer rue des Postes, tout près de l'impasse des Vignes, à quelques pas du puits qui parle, en face de la maison mystérieuse du sommet de laquelle, on s'en souvient, était tombé le pauvre Vol-au-Vent. En effet, au milieu de cette troupe, un œil exercé eût pu reconnaître, sous la conduite de gibassier, obéissant à son ordre sans avoir l'air de le connaître, ces braves gens, agents de M. Jacal, que nous avons déjà eu l'honneur de présenter à nos lecteurs sous les noms pittoresques de Papillon, Carmagnol, Longavoine et Brin d'Acier. Salvatore était à son poste au coin de la rue aux Fers. Il souriait comme il avait souri la veille, en reconnaissant tous ces visages auxquels il eût pu appliquer leur nom. Des motifs qui ne sont point arrivés jusqu'à nous, mais qui devaient avoir leur importance, avaient suspendu l'émeute qui devait éclater la veille, comme M. Jacal l'avait annoncé à Salvatore. Celui-ci l'avait attendu et, ne la voyant pas venir, avait pensé qu'elle était remise au lendemain. Mais lorsqu'il vit apparaître, déguenillé, la torche à la main, la face rouge, l'œil aviné, la démarche chancelante, la troupe que nous venons de signaler, conduite par les lieutenants à face patibulaire dont nous avons rappelé les noms, il fut clair pour Salvatore que c'étaient les missionnaires de l'émeute, et que la véritable fête, la fête sanglante, allait commencer. En effet, se ruant dans la foule, ces nouveaux acteurs poussèrent tous à la fois les cris les plus désordonnés, les vivats les plus contradictoires. « Vive Lafayette ! Vive l'Empereur ! Vive Benjamin Constant ! Vive Dupont de l'Eure ! Vive Napoléon II ! Vive la République !» Mais entre tous ces cris se faisait entendre le principal que les gamins de 1848 ont cru inventer et qu'ils n'ont fait qu'exhumer. « Des lampions, des lampions !» C'était le motif principal de cette symphonie funèbre. La promenade de ces enthousiastes dura une heure. Mais si, à leur patriotique requête, plusieurs lampions retardataires s'étaient allumés, d'autres lampions, plus hâtifs, étaient arrivés à la fin de leur huile et s'étaient éteints. Or, ce n'était pas le compte des lampionnaires. La troupe avisa une maison dans la plus complète obscurité, et, poussant des cris féroces, elle somma les habitants de cette maison d'illuminés. Les cris se résumaient par ces apostrophes. Chaque temps de trouble politique a les siennes. Constatons celle de 1827. À bas les jésuites, à bas les bigots, à bas les ministériels, à bas les villélistes. Aucun des locataires ne donna signe de vie. Ce silence exaspéra la troupe. « Ils ne répondent même pas !» s'écria un des hommes. « Ah, c'est une injure faite au peuple !» dit un autre. « On insulte les patriotes !» cria un troisième. « À mort les jésuites !» hurla un quatrième. « À mort, à mort !» répétèrent les gamins avec leur voix de fossé. Et comme si ce cri eût été un signal, toute la troupe tira, soit des poches de sa veste, soit de celle de sa blouse, soit de celle de son tablier, des pierres de toutes les formes et de toutes les dimensions, qu'elle lança à toute volée dans les carreaux des fenêtres de la maison silencieuse. Au bout de quelques minutes, il ne restait plus un carreau. La maison était percée à jour aux grands éclats de rire de la plupart des assistants, qui ne voyait dans ces événements qu'une juste leçon donnée à ce que l'on appelait alors de mauvais français. L'émeute commençait. On envahit la maison. Elle était vide. C'était une maison que l'on remettait entièrement à neuf à l'intérieur et qui, pour le moment, était inhabitée. Des émeutiers sérieux se fussent rendus à cette raison, qu'en l'absence des locataires, il était impossible d'illuminer les fenêtres. Mais nos émeutiers, ou plutôt ceux de M. Jacal, étaient sans doute plus naïfs ou plus habiles que les émeutiers ordinaires. Car trouvant la maison sans meubles et sans occupants, ils poussèrent des cris si féroces que ceux de leurs camarades qui étaient demeurés dans la rue se mirent à hurler « Vengeance, on égorge nos frères !» Nos lecteurs savent aussi bien que nous que l'on n'égorgeait personne, mais ce fut un prétexte, ou plutôt un signal, pour envahir les maisons habitées dont les lampions avaient eu le malheur de s'éteindre. Les lampions se rallumèrent à la grande joie de la foule. En ce moment-là passaient, rue Saint-Denis, des voitures allant au marché des Innocents ou revenant du susdit marché. Or, les charretiers qui conduisaient les voitures étaient étonnés, à bon droit, de voir, dans cette rue si tranquille, d'ordinaire, à une pareille heure, une si grande multitude criant, chantant, vociférant, et lançant, de côté et d'autre, mille pétards. Toutefois, les chevaux étaient encore bien plus étonnés que ceux qui les conduisaient. Non que les cris de la foule soient en général désagréables aux chevaux, mais ce qui surprenait, ce qui agaçait, ce qui arrêtait dans leur marche ces quadrupèdes, c'était l'odeur, l'éclat et le bruit des pièces d'artifice. Un cheval de maraîcher n'est pas précisément un cheval de guerre, un coursier respirant bélone, comme eût dit l'abbé de Lille. Les chevaux des maraîchers s'arrêtèrent donc en poussant de longs hennissements qui se mêlaient aux cris de la foule, produisant les notes les plus incohérentes, le concert le plus discordant. Les charretiers leur détachèrent leur plus beau coup de fouet, mais au lieu d'avancer, les chevaux reculèrent. « Ils marcheront !» criaient les uns. « Ils ne marcheront pas !» criaient les autres. « Ah, je vous dis qu'ils marcheront, moi !» répondit un gamin, fourrant un pétard sous la queue du cheval qui faisait tête de colonne. Le cheval rua, hennit et recula au lieu d'avancer. La foule poussa un éclat de rire homérique. « Vous obstruez la voie publique !» cria Gibassier d'une voix de basse. « Ah, tiens, c'est Monsieur Prudhomme !» cria un gamin. En effet, Henri Monnier venait d'inventer ce type devenu depuis si populaire. « Vous entravez la manifestation de la joie publique !» cria à son tour Carmagnol, faisant écho à Gibassier. « Au nom du Seigneur Tout-Puissant !» marmotta Longavoine, que ses relations avec la loueuse de chaises de Saint-Sulpice avaient rendu dévot, « ne vous opposez pas au décret de la Providence !» mille tonnerres !» cria le charretier auquel étaient adressées ces paroles. « Vous voyez bien que je ne puis pas avancer, mon cheval s'y refuse !»« Alors reculez, mon frère !» répondit dévotement Loncavoine. « Mais sacrédier, je ne peux pas plus reculer qu'avancer !» s'écria le charretier. « Vous voyez bien que devant et derrière, la rue est encombrée de monde !»« Alors descendez et dételez !» fit Carmagnol. « Mais, nom d'une pipe !» vociféra le charretier. « Quand je dételerai, ça ne fera ni avancer ni reculer ma charrette !»« Assez causé !» dit Gibassier Prudhomme d'une voix de basse effrayante, et faisant signe à une demi-douzaine d'individus qui paraissaient n'attendre que ce signal, il se lança sur le charretier rébarbatif, qu'il terrassa facilement, tandis que ses compagnons dételaient le cheval avec une telle promptitude qu'on eût dit des gens du métier. Cet exemple fut suivi. À quoi serviraient les exemples si on ne les suivait pas? Cet exemple fut donc suivi, on mit à pied les charretiers et l'on détela les chevaux qui se trouvaient dans la rue. 10 minutes après, une barricade s'élevait. C'était la première depuis cette fameuse journée du 12 mai 1588. Nous savons tous que ce ne fut pas la dernière.